Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Je vois pas le rapport avec la Bretagne, votre émission de vulgarisation militante avec vos deux animateurs préférés, Shona.
Yes.
Et moi, Morgane. Tous les mois, vous aurez cette émission sous le signe du ravachol. Et tous les mois, l'émission parlera d'un thème. Et aujourd'hui, on va parler de masculinité et d'hommes fragiles. On va parler de virilité.
Bien entendu. Donc, la virilité, le virilisme, c'est un sujet qui est extrêmement en vogue en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on a le droit à plein de connards de mecs qui cassent les couilles en permanence, tels que Donald Trump ou encore bien d'autres figures politiques qui imposent avec leurs gros muscles. Par exemple, Poutine qui défile, qui fait des photos torse nu sur des chevaux. Voilà,
sur,
donc ça,
sur
c'est.
Sur des ours. Non, c'était des chevaux.
Oui, bah oui, oui. Mais tu crois vraiment qu'il est monté sur un ours. Ça, c'était un Photoshop.
Je disais aussi,
mais... mais bref. Donc, on a Poutine qui aime s'afficher musclé, torse nu, viril, bref, un sujet d'actualité. Donc. Tout d'abord, je vais commencer par l'annonce du plan. Donc, dans un premier temps, nous verrons la virilité dans l'histoire. Dans un deuxième temps, une virilité qui est justement remise en question. Et dans un troisième temps, une virilité qui a muté. Donc, on va commencer d'ailleurs par vous donner des définitions, parce que c'est ce qu'on oublie de faire à chaque fois. On se perd, pour une fois, on a anticipé et on a les définitions. Donc c'est parti, je vais vous faire un petit listing. Donc, le virilisme, c'est une idéologie prônant la virilité comme valeur supérieure dans le genre masculin. Voilà. Le masculinisme, c'est un ensemble de revendications cherchant à promouvoir les droits des hommes et leurs intérêts dans la société civile. La virilité, donc il y a beaucoup de sens, mais Morgan a fait un super travail parce qu'il a marqué ce qui nous intéresse.
C'est la première fois.
Tout à fait, pour une fois Morgan il travaille. C'est
merci.
Ouf. Bref, ce qui constitue le sexe masculin, capacité d'engendrer, vigueur sexuelle, puissance sexuelle, capacité à vivre une relation sexuelle épanouie. Donc, sous-entendu, si un homme est impuissant, il sera de ce fait dénué de la virilité et ne sera plus un vrai homme par conséquent. Le sens numéro 2 de virilité, ça va être le caractère de ce qui convient à un homme, de ce qui est digne d'un homme. Sous-entendu que si l'homme n'est pas viril, n'est pas masculin, il n'est plus un homme. Et le troisième sens, c'est la qualité morale, l'énergie, la fermeté, la force, la vigueur, la vaillance, le courage, le sérieux, la dignité. Mais après, Morgan, il m'a parlé de Plutarque, donc du coup, je vais pas en parler de ça, parce que ça commence à être long. Bref, donc, la crise de la masculinité, également, c'est quoi ? La crise de la masculinité est un concept qualifiant l'ensemble de toutes les remises en cause du rôle traditionnel des hommes, souvent associé à la progression du féminisme.
Mais ça, on en parlera plus tard.
On en parlera après, donc voilà. Et le patriarcat, c'est l'oppression que les femmes subissent en tant que femmes de la part des hommes. Voilà. Donc, je vais tout de suite enchaîner, parce qu'encore une fois, nos transitions sont vachement travaillées, ouais. Avec la virilité dans l'histoire. Donc, la virilité dans l'histoire, c'est quoi ? Eh bien, ça commence, par exemple, avec des images comme en Grèce ou en Rome antique, avec l'image du guerrier. Le guerrier, il est fort physiquement, il a une belle maturité, avec une belle barbe, des beaux poils, un sens du sacrifice, et bien entendu, une puissance sexuelle, autant que sur les femmes que sur les jeunes hommes. Voilà. Donc, on va, durant l'Antiquité, faire face à une crise de la virilité, donc notamment avec Homère dans l'Iliade qui s'inquiète de la faiblesse des nouvelles générations. Jules César, après tout, s'épilait tout le corps à la cire, et en particulier le visage. Est-ce que Jules César n'est donc pas une grosse chuchote ? Bah, apparemment, si pour Homère. Au Moyen-Âge, donc, le modèle de virilité, c'est le chevalier. Le chevalier, c'est un homme goûtant les manifestations littéraires et l'amour courtois, les relations hétérosexuelles plus respectueuses et dans l'élégance du vêtement. C'est un homme qui peut être efféminé. Et Montaigne dira même préférer les sauvages virils aux courtisans efféminés. Donc par exemple, pour parler un petit peu du Moyen-Âge, bon c'est un peu plus tard, ça va être pendant la Renaissance, mais si vous voyez l'excellent Princesse de Montpensier par Tavernier, le duc d'Anjou, eh ben, c'est une excellente représentation. Petite boucle d'oreille, un peu extravagant, un peu efféminé, super sexy, voilà l'homme viril du Moyen-Âge slash un peu Renaissance. Au 18e, les Lumières. Donc c'est les philosophes qui contestent leurs aînés, la puissance patriarcale virile étant assimilée à celle d'un tyran. La virilité comme domination de l'homme sur l'homme est remise en cause. Mais les femmes, par contre, sont toujours dominées, hein, voilà. Les Lumières, hein, on aime les hommes qui sont lettrés, on aime les hommes qui sont intelligents, on aime les hommes qui se dressent un peu au-dessus de leurs conditions de simples mortels. Bref, au 19e, ça va être la révolution industrielle ou l'apogée de la virilité. Pourquoi ? Parce qu'on a une présence dans les professions, notamment les professions militaires, les professions qui sont assignées à l'ordre public, donc soldats, policiers. La virilité va alors symboliser un ordre hiérarchique. Voilà, donc plus t'es un grade, plus t'es viril. Et en plus de ça, on va avoir une certaine apogée de la virilité dans les milieux ouvriers, comme je disais tout à l'heure. Donc par exemple, chez les cheminots, chez les mineurs. Donc ils sont associés à des gros bonhommes bien musclés, avec bien du poil, qui travaillent et puis qui ramènent des sous à la maison pour nourrir la famille. Voilà. Au 20e, donc à aujourd'hui, une époque plus moderne, et le virilisme est un peu sur un déclin. Donc les guerres mondiales et le chômage achèvent le mythe de l'homme viril. Défendant et pourvoyant aux besoins de son foyer, la femme s'émancipe, les homosexuels et les juifs sont accusés de la perte de la fierté virile, hein, parce qu'on sait tous que c'est à cause d'eux, non je blague, non mais sérieusement c'est vraiment trop con. Et donc cela se manifeste dans certains idéaux, les idéaux fascisme et nazistes, bref, où on va voir naître un regain d'homme viril, hein, on se souvient des affiches de propagande pour le régime de Mussolini. Avec des mecs qui ressemblent clairement à des carrés, à des blocs de béton, hein. On sait pas trop d'où ils sortent leurs épaules, d'où ils sortent leur corps, mais bref, ils ressemblent à ça. Où on se souvient également des affiches de propagande du régime nazi, où on a des beaux hommes blonds, forts, vigoureux, absolument magnifiques. Pareil, comme exemple, on pourrait citer des athlètes, notamment les athlètes qui étaient sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques, donc notamment les Jeux Olympiques de Berlin, ou par exemple Lutz Long, donc le coureur qui était battu par Jesse Owens. Donc Lutz Long qui était littéralement l'homme qui représentait le mieux ces idéaux-là et le virilisme de l'époque, il était grand, blond, baraque, absolument beau comme un dieu. Le virilisme pendant la guerre mondiale, c'était ça. Donc, ça se manifeste également dans certains sports. Par exemple, dans le rugby, on a un gros culte de la virilité également. Hein, des hommes poilus, baraques, qui se foncent partout, qui se castagnent la gueule. Ça, c'est des mecs comme on les aime. Dans les sports comme le MMA ou la boxe, voilà. Dans les simulacres de virilité, le bodybuilding, donc le fait d'acquérir toujours plus de force physique. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal parce que dans le bodybuilding, les hommes s'épilent. Voilà. Personnellement, je trouve ça assez paradoxal, c'est génial.
Faut bien faire des sacrifices pour être viril.
Bah, c'est ça. Plus t'as de muscles, plus t'es obligé de t'épiler, c'est triste. Voilà. Hein. Et bref. Donc, le viril se retrouve aussi dans le milieu de la nuit, hein, chez les Chippendales, par exemple. Donc, on va encore avoir des hommes très musclés qui vont volontiers se dénuder pour satisfaire nous, jeunes femmes, en manque de beaux mecs. Dans le catch, encore une fois, ou encore dans la pornographie, hein, où le virilisme, pareil, c'est un truc qui est... pas totalement ancré, hein, une grosse bite, des gros muscles, et tout le monde, il est content.
Et puis même dans le porno, il y a toujours cette relation de domination sur la femme.
Oui, voilà, par exemple, donc justement, le virilisme, malgré tout, est encore là, hein, et justement, dans cette émission, on va vous en parler. Mais bref, du coup, je vais diffuser mon micro, la parole plutôt, à Morgane pour vous parler de la suite.
Plutôt passer la parole. Du coup, on va parler des classes populaires. T'en as parlé, enfin, des classes populaires, etc. T'en as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt dans les classes populaires, le virilisme, il s'exprime en tant que c'est les gros travailleurs, les ouvriers, ceux qui sont musclés grâce ou à cause de leur boulot. Par exemple, les cheminots à une époque, les mineurs à une autre, etc. Donc, c'est ceux qui battent le fer, qui... Voilà. Dans les classes populaires, c'est comme ça. C'est une image qu'on voit aussi dans le cinéma. Par exemple, on a Rocky, le boxeur super musclé qui vient des classes populaires, etc.
On peut dire que Rocky représente en quelque sorte un peu le fantasme viril du mec qui vit tout seul avec son kleps et, voilà. Et qui frappe des mecs et voilà quoi.
Et voilà. Et puis pareil pour Rambo, c'est le soldat déchu de... même si c'est une critique aussi de la guerre du Vietnam, etc., c'est quand même le soldat déchu qui vient des classes populaires, etc. Sylvester Stallone, c'est une belle icône de la virilité au final.
On pourrait citer aussi Arnold Schwarzenegger. Hein.
Dans des films comme Commando, Terminator, tout ça, c'est vraiment le mec baraque juste pour être baraque, quoi.
Il ne sert pas à grand chose d'autre d'ailleurs.
C'était beaucoup comme ça dans les années 80, mais on le voit encore aujourd'hui avec des figures comme The Rock. Qui était champion de MMA, je crois, de catch, et donc qui est devenu acteur hollywoodien et qui est vraiment très musclé, etc. S'il est devenu acteur, c'est parce que vraiment il est très musclé et qu'il envoie du pâté, quoi.
Ou même, on pourrait encore citer une comédie qui est sortie il y a quelques années, donc dans Nos Pires Voisins, dans laquelle on voit s'affronter Seth Rogen, donc qui est gros, et qui s'occupe de sa fille et tout, et Zac Efron qui est absolument un Apollon méga musclé, et dans lequel on a Zac Efron qui représente totalement la virilité, quand Seth Rogen représente directement le sous-homme, quoi.
Ouais,
donc
c'est ça.
Ce qui est bref.
Il y a plein de films quand on parle, etc., mais on reparlera de cinéma plus tard.
Donc, dans cette deuxième partie, on va vous parler justement de la virilité remise en question. Donc, la virilité, elle a été remise en question notamment par un truc tout simple, l'avancée des droits de la femme. Donc, à partir de mai 68, les droits de la femme ont avancé. Enfin, même avant, il y a eu le droit de vote, les droits de la femme ont avancé, etc. Bref, pour avoir plus de précision, je vous renvoie à notre émission, notre première, sur le féminisme avec Elsa. Voilà, donc vous pouvez la retrouver sur le site de Studio ZEF.
Faut toujours faire de la pub.
Bah toujours, bah surtout que ça expliquera mieux que moi maintenant, enfin le truc dans sa globalité. Mais bref, donc avec les mouvements pour l'avortement, pour la contraception libre, les femmes ont commencé à s'imposer dans le militantisme notamment, alors qu'avant c'était un milieu encore très viriliste. Et ça a fait que le virilisme a été vraiment remis en question quand les mecs se sont enfin compris que les femmes pouvaient faire autant qu'eux. Ça a été remis en question, enfin même dans le sport, les femmes commencent à s'imposer, enfin il n'y a qu'à prendre le kayak, ça fait maintenant des années que le classement national est mixte. Alors les compétitions ne sont pas mixtes, mais le classement national est mixte dans le kayak.
C'est déjà une belle avancée.
C'est ultra ouf en vrai, tu vois. Et enfin voilà, donc c'est des trucs tout bêtes comme ça, mais qui font que cette virilité, elle est de plus en plus remise en question. Et je vais ensuite laisser la parole à Morgane pour nous parler de la crise de la masculinité.
Donc la crise de la masculinité, tu nous en as dit la définition tout à l'heure, mais je vais un petit peu plus approfondir la chose. Donc, selon certaines personnes, elle serait due à la libération sexuelle et à la libération de la femme, l'émancipation de la femme. Tout ça, ça aurait permis donc la généralisation de la contraception et la légalisation de l'avortement. C'est pas totalement vrai et c'est pas totalement faux non plus, parce que en fait, la crise de la masculinité, elle est en effet due en partie et même en faible partie par la progression du féminisme, tout ça. Mais en réalité, il y a eu plein d'autres facteurs. Et il y a aussi le fait que on dise que c'est une crise de la masculinité. La crise de la masculinité, il y en a depuis des siècles et des siècles. Déjà, tu nous en parlais tout à l'heure, dans l'Antiquité, il y a eu une crise de la masculinité et de la virilité. Ce qu'il faudrait, c'est que les hommes, justement, se remettent en question.
Une bonne fois pour toutes, putain de merde.
Voilà, merci Shona. D'ailleurs, il y a plusieurs chercheurs en sciences politiques et de sociologues aussi qui en parlent. Il y a Francis Dupuy-Déry,
dont je conseille d'ailleurs l'excellent bouquin « Les Black Blocs, l'égalité et la liberté se manifestent ». Voilà, j'en ai lu un petit bout du début, c'est excellent.
Du coup, Francis Dupuy-Déry, qui est un chercheur en Sciences Po, qui nous dit que la crise de la masculinité, c'est un thème récurrent dans les ouvrages qui traitent de la masculinité. Et il dit en gros que c'est un refus de la part des hommes de l'égalité et leur réaffirmation de l'importance d'une différence hiérarchique entre les sexes. Il y a un autre sociologue qui s'appelle Abdessamad Dialmi. Donc ce sociologue-là, il nous dit que la crise de la masculinité, ça doit être un prérequis pour l'égalité des sexes. Donc il nous dit que les hommes doivent interroger la masculinité, la mettre en crise et refuser son acceptation patriarcale. Pour faire des recherches sur cette crise de la masculinité, j'ai fait des recherches sur Internet. Et donc, je suis tombé sur un article du site Slate, écrit par Francis Dupuy-Déry, le chercheur en Sciences Po que j'ai cité tout à l'heure. Et du coup, j'en ai fait un petit résumé que je vais vous lire. Donc, l'article, il rapporte qu'on parle de crise de masculinité depuis la Rome antique, ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui pousse l'historienne Judith A. Helen à se demander si les hommes ne sont pas interminablement en crise. Pour le savoir, Francis Dupuy-Déry va prendre l'exemple du cinéma et de son industrie. Il va commencer par citer des films évoquant implicitement cette crise, comme Fight Club, qui met en scène des hommes voulant reprendre le contrôle de leur vie par des concours de boxe. Puis il va parler plutôt de l'industrie en tant que telle. Il commence par parler de Michael Douglas, qui en 2015 déplorait une crise chez les jeunes acteurs américains qui laisserait le champ libre aux Australiens de jouer la carte de la masculinité, tout en ajoutant qu'aux États-Unis, il y a une zone relativement asexuelle ou unisexe avec des jeunes hommes sensibles qui manquent de machisme. Donc en gros, les acteurs américains manquent de machisme, manquent de misogynie, devraient frapper les femmes à l'écran parce que comme ça on verrait la domination masculine. Bref, c'est ses propos. Mais 50 ans plus tôt, il y avait John Wayne aussi qui affirmait un truc comme ça. En 1960, il disait qu'en 1945, les gens voulaient voir des films où les hommes se comportaient en hommes. Mais qu'à son époque, donc en 1960, il y avait trop de rôles de névrosés. Donc les acteurs seraient en crise depuis 1960. Le problème, ce que nous dit Francis Dupuy-Déry, c'est que les acteurs sont bien mieux payés que les actrices. Et surtout les acteurs jouant des rôles de super-héros, de héros de films d'action, de films policiers, de guerre et de science-fiction. En 2017, si on prend le total des salaires des 10 acteurs les mieux payés et qu'on les additionne, on arrive à 489 millions de dollars. Pour les actrices, c'est 173 millions de dollars. presque 3 fois moins. Ça nous en dit beaucoup sur la crise de la masculinité. Pour que les hommes soient bien payés, il faut qu'ils jouent des rôles de bonhomme, de gros dur, de sauveur de situation. Bref, pour que les hommes soient bien payés, il faut qu'ils soient masculins, quitte à être toxiques. Donc, crise de la masculinité ? Ouais, mais non, en fait, pas du tout. Ça existe pas vraiment. Cette crise, c'est une technique rhétorique. Quand l'homme se sent dominé par sa mère ou sa conjointe, ou alors quand il va sentir que les femmes commencent à dominer la société, il va sortir un système d'autodéfense en sortant cet argument de crise. Pour en finir avec cette partie, je vais juste citer 2 passages de l'article qui résument pour moi cette crise. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'être attaqué par des zombies en sortant de chez moi que les zombies existent pour autant, et ce n'est pas parce que je me sens dominé par les femmes qu'elles dominent réellement la société et les hommes. Et la 2e citation, c'est « Il suffirait que je me demande ce que signifie être un homme aujourd'hui pour que l'identité masculine soit en crise. »
Juste Morgan,
oui.
Est-ce que ça veut dire que genre... Quand un mec il commence à être un petit peu trop contraint à l'autorité d'une femme, il se met à faire de la boxe.
En gros.
Ok. Je comprends mieux beaucoup de choses. Bref, donc cette masculinité, ce virilisme qui commence à devenir peut-être un petit peu has-been, enfin du moins qui a muté plutôt, il se voit notamment par Pascal Brutal. Donc Pascal Brutal, c'est quoi ? C'est une BD de Riyad Satouf. Riyad Satouf qui est connu pour notamment l'Arabe du futur. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous le connaissez, c'est cool. Si vous ne le connaissez pas, allez le lire. Askip, c'est bien. Moi, je n'ai pas encore lu, mais bref. Donc, Pascal Brutal, c'est qui, c'est quoi ? Pascal Brutal, c'est un personnage de BD. Donc, comme son nom l'indique, c'est un mec, un vrai. Il est brutal, il est masculin, il a un petit bouc, il a une petite chaîne, petite gourmette autour du poignet, je crois. Voilà. Pour lui, la virilité, c'est son métier. Je crois que c'est une de ses répliques. Et bref, Pascal Brutal est un personnage qui nous paraît, à l'heure actuelle, complètement ridicule, tant il est l'exposé vivant d'une virilité qui est totalement désuète à l'heure actuelle. Et c'est ainsi que nous allons passer, après une petite interlude médicale,
médical, ouais,
sur notre chapitre, enfin notre 3e partie, une vérité qui a muté. Donc, de retour, nous allons parler de la virilité qui a muté avec une petite partie qui s'appelle la vérité toujours présente. Morgane, je te laisse nous en parler. Vas-y.
Donc, la virilité, c'est un idéal. C'est un idéal de perfection. Ça se voit notamment dans plein de trucs, c'est-à-dire le mec Barack, etc. On en parle depuis le début, mais c'est vraiment ça la virilité, c'est-à-dire c'est cet idéal que tous les hommes, pour être des hommes, pour être virils, ils doivent être musclés, etc., beaux, tout ça. L'exemple type du truc, c'est Donald Trump. C'est-à-dire que pour lui, pour Donald Trump, la virilité, c'est vraiment...
Bon, attention, par contre, on dit pas que Donald Trump est beau, hein.
Alors, voilà, on ne dit pas que Donald Trump est beau.
Ça a porté un peu à confusion, là, par contre.
On ne dit pas non plus que c'est quelqu'un de bien. Bref, c'est même un sacré connard. Et du coup, Donald Trump, il représente cette virilité qu'on combat. C'est la virilité donc, du mec très musclé, qui veut que l'hétérosexualité soit conquérante face à l'homosexualité, qui veut que la masculinité ce soit ostentatoire, c'est-à-dire les muscles, etc.,
qui veut que les mecs posent leurs grosses couilles sur la table, putain de merde.
Voilà, c'est ça, et puis même qu'ils puissent taper leurs femmes comme ils veulent.
Bref, donc cette virilité, elle est toujours présente, notamment dans les milieux d'hommes. Par exemple, donc, comme on l'a annoncé tout à l'heure, elle est très présente dans les milieux du sport, mais elle est également très présente dans les milieux professionnels. Donc sans parler des ouvriers, encore une fois, parce qu'on leur tape bien assez sur la gueule tous les jours pour qu'on en reparle là, on va parler des métiers qui sont un peu plus mieux vus dans l'opinion publique, disons. Par exemple, une femme cadre, je rappelle qu'elle gagne toujours bien moins bien sa vie qu'un homme cadre. Et on va également parler, donc j'avais lu un article, je sais plus c'était dans lequel des articles, de toute façon vous aurez les sources dans la description
oui.
du podcast, mais en gros dans un des articles ils expliquaient que des femmes par exemple chirurgiens, il y en avait très peu, le chirurgien est un métier qui est assez réservé aux hommes de façon générale, et que c'est toujours un peu compliqué pour des femmes de se mélanger à des hommes dans ce genre de situation, parce que les mecs ils savent que parler de bite et de chat. Voilà, c'est un problème, à part parler de leur sexe en permanence. Il y en a beaucoup qui savent pas faire grand-chose d'autre. Du coup, c'est toujours un peu compliqué pour une femme de s'insérer dans ces milieux d'hommes, à moins de laisser de côté sa féminité. Et toutes les femmes n'ont pas forcément envie de le faire pour s'intégrer. Hein. Enfin, on n'a pas forcément à le faire, quoi. Mais bref, donc cette virilité, elle est toujours présente, mais elle est également devenue inclusive et hégémonique. Je vais représenter cela par un exemple tout à fait concret et qui vous parle, je pense, à tous, Justin Trudeau. Justin Trudeau, c'est qui ? C'est le Premier ministre canadien. Justin, il est comment ? Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, il est beau comme un dieu. Il est méga beau. Justin, il est musclé, il a les yeux bleus, il a des belles bouclettes brunes, il fait des beaux discours, même si c'est un connard de libéral, il est beau, on peut pas le retirer. Et c'est quoi le problème de Justin au niveau de la virilité ? Bah, Justin, il fait de la boxe, hein. Il a montré ses photos de lui en train de boxer fièrement, bien musclé dans les petits poids légers. Dans les poids légers, bref. Donc Justin, il est beau, il se met en costard, il fait son beau sur Instagram. Il est viril, Justin, il le sait. Et surtout, Justin, maintenant, Justin, il se met à pleurer devant les caméras. Voilà. Genre Justin, maintenant c'est l'homme viril qui s'autorise à pleurer. Et ça c'est vraiment genre magnifique.
Putain, ça me donne envie de chialer, bref.
Bah ouais, genre putain, la vérité est tellement plus là. Non, la vérité elle a juste muté, elle est juste devenue inclusive. Elle se propage, elle en devient hégémonique.
On va parler un peu de ces virilités contre lesquelles on doit se battre. Donc en commençant par la virilité religieuse, parce que en ce moment l'Église catholique commence à se mobiliser en faveur de la revalorisation de la masculinité. C'est un mouvement plutôt extrémiste de type extrême droite, et ça nie certaines valeurs humanistes du christianisme au profit de la force et de la violence. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que l'homme n'est pas la femme, bien qu'il soit égaux, ouf, ils le disent quand même, qu'il contient en lui un potentiel de violence guerrière qui doit être valorisé, cultivé et doit s'exprimer. Je cite, « Il a besoin de se battre d'un lieu où le guerrier qui est en lui peut reprendre vie. » Ou encore, « Les hommes doivent assumer leurs désirs profonds, spécifiquement masculins, que sont l'aventure à vivre, le combat à mener et la belle à conquérir. » Un scandale plutôt moral et intellectuel. Moral parce que ça a été valorisé, érigé en norme de vie, donc à aucun moment condamné, alors que cela a un rapport à la force et à la violence. Le cantonnement de la femme à la procréation, à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères n'est pas loin. On nage en pleine idéologie d'extrême droite. Il est vrai qu'on apprend cependant que cette force animale doit se transcender vers un idéal qui dépasse l'homme, mais on rappellera à nos auditeurs que c'était aussi le discours des nazis. Le scandale est aussi intellectuel pour qui n'est pas croyant mais ne supporte pas qu'on lui donne un faux fondement à cette éthique de l'homme fort. La masculinité est présentée comme une vocation, un appel de Dieu, et tout ce qui est dans les évangiles peut préconiser des valeurs et des comportements contraires et discrédités avec mépris. La douceur, l'amour du prochain, l'humilité, etc., ce sont des caractéristiques féminines, donc à rejeter. Faire de Jésus l'incarnation typique de l'homme fort et donc masculin, il faut oser dire que ça, c'est vraiment une insulte à ce qu'il y a de bien et d'universel dans certaines valeurs propres au christianisme, bien que je ne sois pas contre la religion, etc. Donc, en gros, l'article que je vous cite, qui est un article de Mediapart d'Yvon Quignoux, ça nous dit que face à un islam qui renforce son identité rigoriste et viriliste, c'est la seule riposte qu'a trouvée l'Église. Voilà.
Très bien, donc on doit se battre comme Morgane vient de le dire, contre une virilité qui commence à être, qui est très présente et qui est revalorisée dans l'Église catholique, dans les milieux religieux. Mais on doit également se battre contre une virilité qui est enseignée, qui est inculquée aux enfants. Donc par exemple, dans l'éducation tout simplement. Il y a combien de petits garçons à l'école qui n'osent pas aller jouer à la marelle parce qu'ils sont censés être des garçons, donc vous n'avez pas le droit de jouer à la marelle, vous devez devenir viril, avoir des petits poils au torse.
Ou la corde à sauter, ce genre de
truc. Ou la corde à sauter, qui n'osent juste pas jouer avec des filles. Il y a combien de parents qui inculquent à leurs enfants qu'ils n'ont pas le droit de porter du rose, enfin leurs petits garçons qu'ils n'ont pas le droit de porter du rose, qu'ils n'ont pas le droit de lire tel livre parce que c'est pour les filles, qu'ils n'ont pas le droit de regarder tel truc parce que c'est pour les filles. Bref, il y en a encore beaucoup trop, notamment dans les milieux, c'est triste à dire, mais j'en viens, donc je peux le dire, dans les milieux de bosserons. Hein, voilà, c'est quelque chose qui est encore très à la mode dans les milieux agricoles notamment. Hein. Le garçon dans les champs, la gamine, je sais pas, fais ta vie, va à la cuisine, hein, fais cuire un steak. Bref, voilà. Donc dans le sport également, hein, il faut se battre pour que les petits garçons puissent jouer à tout ce qu'ils veulent comme sport, que ce soit de la danse classique. Hein. Les garçons qui font de la danse classique sont encore trop souvent martyrisés, discriminés, sous prétexte qu'ils ne sont pas virils parce qu'ils font de la danse, alors que je suis désolé, mais il faut vraiment être un abruti qui n'a jamais vu un danseur pour dire qu'un mec qui danse, c'est pas de la virilité, parce que putain de merde, vu comment ils sont musclés, clairement, les footballeurs, ils ont qu'à bien se tenir. Hein. Bref. Donc, il faut se battre pour ça, pour que les petits garçons puissent jouer à tous les sports sans être dans le carcan de la virilité, parce que c'est chiant. On doit se battre pour la virilité, et c'est mon dernier mot. Ceci dit, je vais en redire un autre, parce que dans le Ravachol 2 décembre, nous avons une super interview de Philippe Poutou, donc je vous invite à aller l'acheter sur le marché, toujours au prix d'un euro, le samedi matin, place Saint-Lubin, voilà, enfin devant le Saint-Lubin plutôt, parce qu'on a appris longtemps qu'en fait c'était pas la place Saint-Lubin, bref. Du coup, on y est, du coup on y sera, si vous voulez votre interview de Philippe Poutou, ça sera parfait. Et on va...
Lui, il sera pas là, hein, qu'on précise.
Non, pas lui, il y aura que deux Glanducs du Rava, quoi. Mais bref.
Toujours les mêmes.
Et on va terminer avec un morceau d'Eddie de Préto.
Mais du coup, Shona, là, je t'entends parler d'Eddie de Préto et tout, c'est cool, mais je sais que je te le fais à chaque fois, mais s'il te plaît, ne t'énerve pas, s'il te plaît. Mais je vois pas, mais alors, pas du tout le rapport avec la Bretagne, là.
Morgane ?
Oui ?
Dis-moi que tu fais exprès, s'il te plaît, vraiment.
Ben non, je fais pas exprès, je comprends pas.
On va faire un truc tout simple, tu vois, parce que là, la dernière fois, j'ai essayé de gueuler, j'ai essayé d'être pédago, j'ai tout essayé avec toi. On va faire un truc simple, tu vas prendre tes affaires et tu vas partir, tu vas plus jamais revenir. Voilà. Bref, à la semaine prochaine.
Allez, joyeux Noël.
Oh non.
Joyeux Noël, les gens.
Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, c'est finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tout sens des fils à terre et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive.
mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.